I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'une équipe dont on n'a pas parlé dans un épisode consacré depuis octobre 2017. Une éternité, un monde sans Covid et un monde, Alan, où tu avais plus de... Non, où j'avais plus de cheveux que toi. Comment ça va?
C'est vrai, ça va et toi? Ça va très bien.
Ça va très bien. Alors par contre, Tom, en 2017, en 2018, 2019, 2020 et même 2021, tu restes dans la catégorie des gens aux cheveux courts. Ça va, Tom ?
Très bien, très bien. À l'image de l'ancien coach et du coach de l'équipe dont on va parler.
Ok. C'était une intro très capillaire aujourd'hui. On va donc parler d'Indiana parce que, alors c'est inhabituel, mais Indiana a fait la une, et pas pour des raisons basket cette semaine. Donc on va en parler. Je sais pas si on est dans le Dunk Hebdo NBA Podcast ou sur E-Entertainment, hein. On va essayer de rester dans le podcast basket. Mais il y a eu beaucoup de choses cette semaine. Si vous ne comprenez pas trop à quoi on fait référence, eh bien, il faut rester. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, enfin, sur Twitter et sur les plateformes où vous nous écoutez, en particulier sur YouTube. La vidéo et nous, c'est un peu difficile parfois, mais cette semaine, on vous promet, on sera là en vidéo sur YouTube. Je perds pas plus de temps, on marque une petite pause et on se retrouve pour parler d'Indiana. Messieurs, alors d'habitude, on a toujours un plan en trois parties. Alors, ça s'entend pas tout le temps, hein, mais d'habitude, le plan en trois parties. Aujourd'hui, il sera en quatre. On va commencer par un bilan de la saison des Pacers parce qu'on se dirige tout droit vers la fin de cette saison. Et non, ce n'est pas aujourd'hui le Power Ranking. Comme j'ai pu le teaser en fin d'épisode précédent, on va encore attendre une semaine. À propos des Pacers, 31 victoires, 36 défaites, 15e attaque, 14e défense. On est vraiment dans le ventre mou de la NBA. Ils sont vraisemblablement en route vers le play-in, hein, ils ont plusieurs matchs d'avance sur leurs concurrents. Mais avant de parler de tout ça, faisons un bilan de la saison. Alan, tu retiens quoi de la saison des Pacers jusqu'à maintenant?
Je retiens que, en fait, les années, c'est plus ce que je retiens par rapport aux années précédentes qui s'est pas passé. C'est qu'en fait, pendant le Indiana de Macmillan, donc les trois années où il était là, moi j'en avais toujours ce sentiment de, bah, si tous les joueurs sont présents, s'il n'y a pas de blessés, il y aura un niveau moyen chaque soir d'une équipe solide qui sera chiante à jouer et qui, bah voilà, dans une conférence Est où il y a un ventre mou un petit peu grand et des équipes qui sont mauvaises, et ben ils arriveront toujours à tirer leur épingle du jeu. Le problème, c'est qu'en fait là, ils ont voulu changer un peu d'idée avec le nouveau coach qui est arrivé en prenant de Toronto. C'était un petit peu un pari sur, on en a parlé ensemble, c'était un pari sur, bah ok, on est moyen, on s'est qualifié en playoff plusieurs années de suite, comment on fait pour passer le step? Le problème, c'est qu'ils ont pris le coach, ils n'ont pas pris les joueurs pour passer le step. Donc, je retiens cette idée qu'en fait, de un, ils ont pris un coach pour élever le niveau potentiel sans changer les joueurs. Donc, c'est que de la théorie, en fait. Et surtout, je retiens des blessures. Des blessures parce que TJ Warren, il a joué que 4 matchs. Caris LeVert, il a joué que 31 matchs avec Indiana. Même un Jeremy Lamb, qui est un joueur de rotation solide, il a été blessé. Miles Turner, il a été blessé. Donc, en gros, il n'y a que le duo Sabonis-Brogdon qui, soir après soir, a été là. Et donc, ça revient à ce qu'on disait souvent, c'est si tes remplaçants deviennent des titulaires, ça veut dire que des joueurs qui ne devaient pas jouer deviennent remplaçants et donc tu perds en qualité. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas bons cette année ou moyens.
Même en comptant Sabonis ou Brogdon, c'est 11 matchs ratés, Sabonis 9. Donc, même les joueurs, en théorie, qui sont là souvent, sont assez absents. Je reviendrai, sur la question des blessures, j'ai peut-être un petit astérix à mettre là-dessus. Tom, t'en penses quoi de la saison d'Indiana, le bilan, en gros?
Bon, en fait, c'est une équipe qui a vécu plusieurs saisons en une saison. Ben, comme Alan l'a bien rappelé, voilà, ils se séparent de Macmillan après 4 éliminations au premier tour, dont 3 sweeps consécutifs. parce que voilà, c'était plutôt un coach élévateur de plancher un peu à la manière de Thibodeau, et ils sont partis pour l'upset puisque c'est le coach entre guillemets, c'était le moyen le plus simple vu qu'ils ont des contraintes financières pour pouvoir élever le plafond de l'équipe. Donc ils ont tenté un pari un peu comme Toronto avait tenté avec Nurse, et ça s'est transformé entre guillemets entre ce qui se passe comme à ce qui se passe à Sacramento avec Walton. Donc tu vois, ils ont essayé d'avoir une approche innovative, mais au final ça s'est pas bien goupillé pour eux. Tout ça parce qu'il y a eu énormément de choses en fait dans cette saison, parce que ils ont changé de coach durant la pandémie, il y avait des discussions autour de trade Hayward pendant l'intersaison contre Turner Oladipo. On a eu tout l'épisode Oladipo qui a perturbé l'équipe. Et en fait, tu as dit qu'ils sont au milieu de la ligue, et en faisant un découpage en fait de leur saison, ils sont à 7-4 juste avant le trade de Oladipo. Ils ont le 8e net rating de la ligue avec la 12e défense et la 12e attaque et la 8e défense. Et ensuite, t'as une période post-trade de Oladipo jusqu'au All-Star Game, ce qui correspond à la période d'absence en fait de Caris LeVert, du coup, qui devait remplacer Oladipo, mais qui était blessé, où ils sont 21e au net rating avec la 21e attaque et la 17e défense. Et là, au retour de Caris LeVert, ils sont à 15-16 avec le 18e net rating, avec la 11e attaque et la 22e défense. Donc on voit vraiment que c'est une équipe qui a eu plusieurs saisons dans sa saison, et qu'en fait la perte d'Oladipo, et du moins le joueur en fait, que le rôle qu'avait Oladipo dans l'attaque, a totalement en fait détérioré l'équilibre de l'équipe, et cet équilibre là il est revenu un peu avec Caris LeVert.
Je suis d'accord avec certaines choses, un peu moins d'accord avec d'autres. Alors je suis d'accord, c'est une équipe qui a eu très peu de stabilité, mais là où je veux un petit peu contrebalancer cet argument, c'est que cette année, des équipes qui ont de la stabilité, il y en a pratiquement pas. Je le disais en off, selon moi, la normalité cette année, c'est d'être instable. C'est la normalité qui est d'être stable, d'avoir peu de blessés. On le voit sur les réseaux sociaux quand il y a des tweets par rapport aux blessures. C'est assez incroyable de, malgré cette avalanche de blessures, eh bien, les Pacers ne sont même pas dans le top 7 ou 8 des équipes qui ont subi le plus de blessures. Alors, c'est dû au fait que, comme on l'a dit, c'est souvent des petites blessures qui s'enchaînent, c'est-à-dire que tel joueur est absent, et au fil du temps, eh bien ça s'annule, et on n'arrive pas à trouver une stabilité avec l'effectif. Cependant, je pense que, et on va rentrer un peu sur ce sujet-là, la question du coach pèse, parce que en réalité, même si tu es parfois sans certains de tes joueurs, il faut réussir à coacher, à réussir à trouver des ajustements. Tom, t'as parlé d'un peu de Walton Sacramento. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le problème de cet effectif et de ce coach, c'est qu'il a du mal à s'adapter aux pièces qu'il a. C'est-à-dire qu'il veut faire jouer une équipe qui est pas connue pour ses qualités athlétiques, dont un des joueurs majeurs, Sabonis, c'est pas le meilleur défenseur à son poste, et il veut les faire jouer, par exemple, dans une défense en switch. On voit qu'en réalité, il y a peu d'adaptation au personnel.
Ouais, complètement. Et pour moi, c'est une déception, parce que les meilleurs coachs, même les plus innovants, c'est ceux qui arrivent quand même à faire le maximum avec ce qu'ils ont sous la main. Et on le voit aussi souvent en NFL, Ben, avec des coachs qui sont enfermés dans leur idée, leur philosophie de comment on doit jouer pour y arriver. Souvent parce qu'ils ont joué comme ça en tant qu'assistant avant, mais dans des équipes où c'était plus fort. Je veux dire, s'il veut copier, si l'idée de Toronto, et ça revient un peu à ce que je disais au début, l'idée d'Indiana, c'est de copier ce qu'a fait Toronto avec Nurse à la place de Casey, et là avec le Bjorken à la place de McMillan, le problème c'est qu'il n'y a pas Kawhi, il n'y a pas Kyle Lowry. C'est ça le souci. Alors oui, tu peux essayer de les... Ce qu'on disait pas mal avant la saison, c'est on va essayer de les faire plus courir, on va essayer d'être plus fort en attaque, on va essayer d'avoir un jeu d'attaque un petit peu plus diversifié. Parce que qu'est-ce qu'on disait depuis pas mal de temps? Est-ce que Sabonis Turner, ça va marcher? Est-ce qu'il en faut pas un des deux? Il y a des rumeurs Turner de deal depuis pas mal de temps. Et en fait, ce qui marchait en fait avec McMillan, c'était de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, mettre son quatuor Brogdon, Warren, Sabonis, Turner. Avec, il y avait Oladipo, mais Oladipo était un petit peu blessé. Ça marchait l'année dernière avec McMillan. Ce qui marchait pas, c'était quand t'arrivais contre Miami par exemple, ou contre les meilleures équipes. Tu peux faire jouer ces mecs-là 40 minutes, malheureusement, ça marche pas. Le souci, c'est que là, l'effectif, il n'a pas changé, mais on s'est dit, on va essayer de faire passer un step-up pour essayer de battre les meilleures équipes potentiellement. Bah, le souci, c'est que ça ne peut pas fonctionner, sauf si tu changes ton personnel. Et là, ouais, là, c'est vraiment une limite. Moi, bon, en fait, au début, j'étais parti dans l'optique du non, moi, j'ai rien à vraiment redire au coach parce que je trouve que c'est juste les joueurs qui sont peut-être pas au niveau, il y a des blessés. Mais en fait, vous l'avez pointé du doigt et c'est pour moi, c'est le truc qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il ne s'est pas adapté à son personnel. Il a demandé à son personnel de s'adapter à lui. Et ça, c'est un problème.
Ça rappelle un peu ce qui s'est passé à Minnesota avec Saunders sur la première partie de saison où Saunders, il avait une idée en tête de ce qu'il voulait que les joueurs fassent. Et il ne s'adaptait pas du coup à son personnel. Et on a vu, par exemple, pas mal de problématiques du coup avec des joueurs comme Josh Okogie, même Jared Culver, qui ont totalement perdu confiance parce qu'on leur demandait de faire des choses pour lesquelles eux n'étaient pas bons, pour lesquelles eux n'avaient pas confiance, et du coup leur niveau en apathie, et c'est toute l'équipe en fait qui fonctionnait un peu de façon bancale quoi, et c'est ce qui arrive à cette équipe d'Indiana qui même en plus ça se ressent encore plus avec l'absence de Miles Turner. D'ailleurs Miles Turner, tu te rends compte vraiment que c'est un joueur qui est très important pour cette équipe là quand il est pas là en fait. Parce que quand il est là, on a peut-être qu'on le prend un peu pour acquis et on se rend pas compte à quel point il est important, notamment pour permettre d'avoir une équipe viable avec Sabonis en pivot.
Alors oui, je pense que Miles Turner, il faut en parler parce que à l'heure actuelle, ce qui se passe du côté d'Indiana dans le secteur intérieur, c'est très grave. C'est très grave. Alors, on en a parlé. J'invite les auditeurs, vous avez 10 minutes. Vous branchez votre League Pass, vous regardez le premier carton contre les Kings, moi il m'a traumatisé. Alors Tom parlait du second carton qui est aussi un peu l'éruption de Marvin Bagley. On a parlé de Marvin Bagley il y a quelques semaines, c'est un joueur qui a du talent mais actuellement NBA. Assister à une éruption de Marvin Bagley dit plus sur l'adversaire que sur Marvin Bagley. C'est-à-dire comme on a pu en parler Tom et puis Alan aussi en préparant cette émission, c'est une équipe qui concède énormément de shoot au panier et ça se voit en l'absence de Miles Turner, c'est-à-dire que Atlanta a pu le faire, on voit les autres équipes sortent Sabonis de la raquette pardon, et vu que Sabonis c'est pas forcément le joueur qui recouvre le mieux, ben, c'est ouvert, enfin je veux dire c'est assez incroyable de se voir une équipe se faire tordre à ce point-là. Et je pense que vraiment pour moi c'est le premier match contre les Kings qui m'a marqué parce que Richaun Holmes contre Sabonis. Alors, Holmes, c'est pas le joueur le plus incroyable de l'NBA, mais physiquement, il est explosif. C'est tout ce que n'aime pas Sabonis. Et là, on a pu voir les déficiences de cette équipe. Et je trouve que c'était le symbole était assez incroyable. On peut parler du match contre Washington aussi. Contre ce Westbrook, un tel match, c'est que le secteur intérieur est faible et lui a pu lui laisser faire un match gigantesque. Est-ce que vous aussi, les gars, c'est vraiment ce secteur intérieur défensif qui vous marque en ce moment?
Ouais, carrément. Moi ça m'a un peu choqué. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup surprise quand je les ai vues. C'est notamment face à Washington que personne ne tag le rollman sur le pick and roll. Le mec qui a à l'opposé qui doit venir taguer quand il y a le pick and roll central, il le fait pas. Donc, c'est souvent McDermott, il le fait pas. Du coup t'as souvent Sabonis qui se retrouve dans un 2-contre-1 et c'est quelque chose qu'il arrive très mal à gérer, là où Miles Turner arrivait à gérer ça plutôt bien et arrivait à gêner les adversaires. Et c'est scandaleux la défense. Tu vois que ben ils se font avoir sur des trucs de base, mais de base c'est pas possible de jouer comme ça défensivement. Et quand tu vas un petit peu plus loin dans les stats sans Miles Turner, du coup c'est depuis qu'il est absent, ils ont la 23e défense NBA seulement en concédant le 6e plus faible EFG. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et quand tu vas plus loin, tu te rends compte qu'ils se font totalement démonter en fait sur le rebond offensif. Ils ont un offensive rebounding rate adverse de 31%. C'est en gros, ils sont 30e, ils sont derniers de la ligue sur la période. Et le l'avant-dernier, il y a 3% d'écart. C'est l'équivalent de l'écart entre le 8e et le 23e. Et c'est l'équipe qui encaisse le plus de points dans la raquette. Ils prennent 60 points dans la raquette. C'est incroyable. Ils prennent 60 points dans la raquette et c'est l'équipe qui encaisse le plus de points de chance. Donc il y a énormément de choses qui sont liées à l'absence de Miles Turner.
Et sachant qu'en plus, Alan, de base, Miles Turner est un très bon protecteur de raquette. Je le dis parce que je l'ai mis dans mes favoris pour le défenseur de l'année. Et je pense que son absence justifie un peu ce choix. Mais de base, cette équipe a déjà ces problèmes-là en la présence de Miles Turner. Miles Turner n'est pas le meilleur rebondeur à sa position. Mmh. Et donc là, tout s'accentue. Qu'est-ce que t'en penses actuellement de cette défense d'Indiana? Est-ce que là aussi, c'est pas le symbole du manque d'adaptation aussi de... Alors, personne n'a osé le dire depuis le début. Je vais le faire de Nate...
Bjorkgren.
Trois prononciations différentes. Bref, est-ce que c'est le symbole de ça?
Ouais, carrément, carrément. Mais de toute façon, moi, ça me surprend et ça me surprend pas parce que, en vrai, la question autour du duo potentiel Turner-Sabonis, pour moi, elle est défensive, elle n'est pas offensive. Offensivement, vu que Turner, il peut pop, c'est-à-dire donc tirer, potentiellement tirer sur sortie de pick and roll quand il pose l'écran, et que Sabonis, bah, c'est un bon passeur. Enfin, je suis pas fan de Domantas Sabonis, les gens l'ont peut-être compris. Pour moi, si c'est ton meilleur joueur offensif, t'as pas une bonne attaque. Mais j'ai été un petit peu surpris de voir que l'attaque d'Indiana, elle est quoi, 15e, 16e en termes d'offensive rating. Je pensais qu'avec Sabonis, c'est un meilleur joueur et peut-être créateur numéro 1, même si c'est pas vraiment le cas, ça serait plus bas. Donc là, j'étais un petit peu surpris positivement. Après, il est pas mal entouré de shooters et de choses comme ça. Le problème, c'est qu'en défense, quand t'es entouré de shooters, souvent, c'est des gars-là, ils défendent pas, peu. Donc ça, c'est compliqué sur, comme l'a dit Tom, des petits détails, des aides qui doivent être mises en place sur des actions pick and roll. Et puis après, voilà, le rebond. Sabonis, il fait ses stats au rebond, mais c'est pas un bon rebondeur. Mm-hmm. Et Turner, il est pas assez costaud. Parce que les gens pensent que dans les années 80-90, les pivots étaient plus costauds et plus physiques. Aujourd'hui, il faut être physique soir après soir pour pas se faire tanguer contre les pivots adverses. Franchement, et c'est super compliqué. Et Turner, bah, déjà quand il est là, au rebond, c'est pas le mieux. Alors, tu le remplaces par Oshae Brissett ou par Goga Bitadze. Et moi, c'est ça, je suis un peu déçu de ça aussi. C'est qu'en fait, bah, Aaron Holiday et Goga Bitadze, leurs deux choix du premier tour, donc de 2018 et 2019, avec toutes les blessures qu'il y a eu, si jamais ces gars-là avaient été une progression, Indiana serait un petit peu mieux, je pense. Et il n'y a pas eu cette progression en interne de joueurs où, d'habitude, Indiana arrive toujours à bien développer ses jeunes. Je suis un peu déçu de leurs deux saisons à eux. Donc voilà, mais ouais, ça ne me surprend pas. Ça me surprend, et ça
t'as pas continuer. Parlé du favori de Ben, Edmond Sumner.
Ouais, mais lui, c'est pas un choix du premier tour. Edmond Sumner, il a starté 22 matchs.
Ouais.
C'est problématique. C'est problématique qu'Edmond Sumner starte 22 matchs, que McDermott soit 24, 25 fois dans le 5, que Justin Holiday starte 50 matchs. Tout ça, c'est comme ce que tu disais, Tom, avec Atlanta l'année dernière. Quand tu perds tes titulaires, bah, c'est-à-dire que tu perds aussi tes remplaçants sur le banc, parce que ces mecs-là vont dans le 5, et donc sur le banc, tu te fais éclater, parce que tu as des mecs qui n'ont pas le niveau.
Ils ont peu de two-way players sur le banc. C'est ça qui est vraiment choquant. Ouais. C'est-à-dire que Edmond Sumner, alors... Pour ceux qui savent pas, pourquoi on rigole de Edmond Sumner? Alors, il y a quelques années, à l'époque où je faisais des fiches de draft, quel jeune. Voilà, bref, je faisais ça et il y a un jour, j'étais en galère, je me suis dit, ah, Alan et Tom, qui je dois faire? Edmond Sumner, pire semaine de ma vie, le mec était, Xavier. C'était difficile à regarder. Et en fait,
Edmond Sumner.
Il est en NBA. Il est même titulaire maintenant. Comme quoi.
Matchs. Il a starté 25 matchs.
Et alors, en fait, pour tout ce qu'il a, les limitations qu'il peut avoir offensivement, défensivement, au moins, il est long, il peut faire des choses. C'est ça le problème. Tu vois, dans la même phrase, t'as cité McDermott et Sumner. Pour moi, c'est très symbolique. Ils ont pas parmi les joueurs qui ont, quand on descend dans la hiérarchie, ils ont peu de joueurs qui vont avoir un impact des deux côtés du terrain.
McConnell, McDermott, ouais, c'est clair.
Ouais, c'est
ils font pas des mauvaises saisons, ces gars-là, hein. Tu vois, McConnell, il fait une bonne saison pour un meneur backup, tu vois.
Ah, mais pour un meneur backup. Je pense même qu'il est dans la bonne moitié des meneurs backup, hein, TJ McConnell.
Mais il joue 25 minutes, quoi. C'est problématique.
C'est trop. C'est trop, et puis ouais, des pas de joueurs qui sont capables de faire les deux choses. On a parlé de ses prêts en défense, en attaque, dès qu'ils ont pu Malcolm Brogdon. Alors on n'a pas trop parlé de lui, mais je trouve que l'apport de Caris LeVert, il est plutôt intéressant, surtout en fait quand ils ont besoin, bah, les fins de match, parce que les fins de match c'était un problème pour Indiana, quand ils ont besoin d'un mec qui se crée une action, il est là. Alors après, on sait qu'on n'est pas les plus grands fans de Caris LeVert, ça reste du Caris LeVert, c'est pas super efficace, mais c'est parfois positif pour eux.
Ouais, c'est ça, c'est un peu le rôle de l'Adipo qui leur manque. Il leur manquait un joueur dynamique balle en main, un joueur dynamique balle en main qui est capable de créer des différences. Puisque quand, et on le voit, hein, l'efficacité de Brogdon quand il jouait à côté de l'Adipo, qui lui avait une efficacité un peu moyenne, et l'efficacité de Brogdon quand il y a eu le transfert, et puis l'efficacité de Brogdon quand Caris LeVert est revenu, ben on voit que ça fait un peu le yo-yo en fait son efficacité. Donc lui, il a vraiment besoin pour avoir sa plénitude à l'efficacité que quelqu'un le décharge d'une partie des shoots difficiles qu'il doit prendre en fait. Et c'est le rôle, c'est là un peu, c'est un peu là où Caris LeVert plus qu'être le joueur qu'il est lui-même, hein, c'est le fait de pouvoir décharger de la création, un peu à la manière de Russell Westbrook. Il va faire tellement de choses qui vont engendrer du déchet que les autres n'auront pas à le faire et tout le monde aura un jeu plutôt très efficient autour de lui. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être important pour la suite d'Indiana et notamment pour les saisons prochaines, pour savoir ce qu'ils vont faire avec le duo Brogdon et Sabonis. Sachant que on peut aussi rajouter TJ Warren dans l'équation qui, après une formidable période dans la bulle, ben, il manque beaucoup à cette équipe à l'aile, quoi. Comme tu l'as dit, Holiday qui joue autant, McDermott qui joue autant. Normalement, si t'as TJ Warren qui est un joueur à l'aile qui joue des deux côtés du terrain, normalement, ça, c'est pas un problème que tu devrais avoir.
Ils sont torpillés par tous les ailiers quand ils jouent des ailiers. Et ça s'explique par ça. Il a joué 4 matchs.
Comme on l'a dit, en l'absence de Turner, tu pars sur un front de court Brissette Sabonis, c'est pour une équipe qui vise le play-in et les playoffs, c'est trop faible. Ça passe pas. Parce que on l'a dit depuis l'absence de Turner, alors les ratings, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le bilan peut paraître flatteur, je crois qu'ils doivent être depuis l'absence de Turner, ils sont à 9 victoires, 8 défaites, mais en fait quand tu regardes les matchs, ils jouent deux fois Orlando, ils jouent OKC, ils jouent Houston, c'est 5 victoires cadeau. Enfin dans la NBA actuelle. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur le jeu d'Indiana les gars ou on passe tout de suite Ouais, vas-y Tom.
Bon, j'ai juste quelque chose sur Oshie Brissett qui est un joueur qui était sur des contrats de 10 jours et je pense que c'est pas un hasard que Oshie Brissett qui était à la franchise de G League des Raptors.
Le Canadien.
Et je pense qu'il a été ramené un peu pour ça parce que il y a un antécédent avec le coach Björgren qui l'avait du coup dans la franchise du Canada pour ramener des systèmes implémentés. C'est quelqu'un qui connaît déjà à peu près les systèmes de Toronto, tout ça. Donc je pense que c'est pas un hasard en fait qu'il soit là et qu'il ait récupéré les minutes de Jakar Samson par exemple. Donc je trouve que c'est une bonne addition, c'est un joueur qui tag le rôle même. Franchement, regardez Indiana, enfin, c'est choquant. Et je trouve que voilà, c'est un joueur qui est un peu on va dire qui est très petit et qui a pas forcément normalement c'est pas un joueur qui devrait être titulaire hein, c'est un joueur un peu à la basse quoi qui devrait être plutôt en sortie de banc et donc du coup moi je trouve que c'est une bonne addition ce gars-là par rapport à leur problème pour boucher les entre guillemets les fuites mais c'est pas suffisant en fait quand tu veux aspirer à beaucoup plus que ça surtout avec les problématiques que t'amène Sabonis en défense.
Quelque chose à rajouter Alan?
Non, en vrai, si ce que je dis, c'est si Bitadze était peut-être au niveau, ils n'auraient pas eu ce problème-là.
La transition est parfaite.
Ah,
parce que Bitadze est justement... Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'on arrive à un moment de la saison, peut-être on regarde plus la course au play-off que Indiana. Il y a donc eu, pendant le fameux match contre les Kings, et honnêtement, je comprends l'assistant Greg Foster, je comprends qu'il y a un moment où, voyant ce match, tu es pu t'énerver légèrement. Il y a donc eu une altercation entre lui et un joueur des Pacers. Ça en est presque venu aux mains. L'attitude, on va pas faire un... Comme certains fans d'Indiana, on va pas disséquer ce qui s'est passé parce que c'est assez incroyable. Tout ça dans un contexte où il y a eu plusieurs articles, des tweets de Wojnarowski qui expliquaient que le coach était en danger. Ensuite, un long article de Bleacher Report qui expliquait tout simplement qu'à l'intérieur de la franchise, le climat était extrêmement délétère et que la façon de manager, de gérer l'effectif du coach n'était pas du tout appréciée. Tout ça a été plus ou moins parfois démenti ou corroboré par d'autres sources. Hein, j'ai passé mon samedi à essayer de comprendre qui dit quoi. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde a l'air d'accord pour dire que au niveau du coach, il y a eu un problème, l'embauche, la greffe n'a pas prise. Je vais continuer à aller avec toi, Tom. Est-ce que on peut se séparer du côté d'Indiana du coach Björgen dès la première saison?
Oui.
Est-ce que tu penses que c'est possible?
Moi, ça me rappelle ce qui s'est passé à Memphis avec Fizdale, où il y a eu des problèmes avec Mark Gasol, et au final, c'est lui qui a sauté une saison après, une moitié de saison après entre guillemets, c'est lui qui a sauté. Et moi, ce qui m'étonne avec Indiana, c'est que pour McMillan, c'était les mêmes joueurs qui étaient impliqués, qui se plaignaient déjà des mêmes choses. Et au final, moi je me demande est-ce que c'est pas au final les joueurs qui seraient pas le problème en fait dans le vestiaire. Après pour Björgren, ça me fait penser à quelque chose que tu as dit à l'embauche de Ty Lue. Tenir un vestiaire en NBA, c'est très important. Et en fait, dans les différents articles qui sont sortis, notamment J. Michael du Indie Star et Caitlin Cooper du Diane Cornrose, en fait, ils mettent bien en avant que lors du processus d'embauche, qu'ils se sont essentiellement axés sur la partie basket X's and O's, comme ils disent aux États-Unis, que la partie basket en priorité avant même de penser à la partie gestion de vestiaire. Et là, c'est en train de se retourner contre eux. Et moi, je pense qu'il y aura plutôt quelque chose qui va se passer au niveau des joueurs que le coaching staff. Je pense pas que le coaching staff va changer tant que ça. Enfin, du moins le coach principal. Puisque qui va venir à Indiana? Qui va venir à Indiana?
En joueur, tu veux dire?
Non, même au niveau du coaching staff. Avec ce qui s'est passé dans le coaching staff là, tout ce qui est sorti sur les assistants coach qui se plaignaient, bah, qui va vouloir venir rejoindre cette équipe là?
Après, le seul moyen, c'est que les assistants coachs et que les coachs, tout le monde vire. Et après, on sait que les places NBA sont tellement rares et ont tellement de valeur que quelqu'un ira se jeter s'il y a un poste ouvert.
Ouais, c'est ça, toujours.
Surtout qu'en plus, Indiana, si ça se passe bien, tu sais qu'il y a la sécurité de l'emploi. Indiana, si ça se passe bien, ils vont pas t'éjecter. Mais c'est vrai que le climat est délétère. Je vais te laisser parler, Alan. Mais juste pour revenir sur ce que t'as dit, c'est vrai que globalement, ça a été ensuite... Alors. L'info a même été donnée dans le fameux article de Bleacher Report qu'on n'aurait même pas consulté TJ Warren sur l'embauche, alors que TJ Warren est le seul joueur de l'effectif qui a un passif avec le coach. Ça a été démenti ensuite par l'Indy Star, mais tout le monde est d'accord pour dire que la recherche, il y a un peu de népotisme parce que le coach aurait été, et le coach actuel est ami avec le general manager, le président des opérations basket, voulait un coach dans le moule de Nick Nurse. Il y a la connexion Nick Nurse, Brogdon. Bref, on a l'impression que ça a été un petit peu mal géré, cette histoire. Alan, t'en penses quoi de tout ça?
Ouais, c'est toujours compliqué puisqu'on n'est pas dedans et tout journaliste a un agenda. En vrai, je pense que t'en as qui peut-être aiment... Moi, il y a toujours des journalistes qui sont amis avec des general managers, ils sont amis avec des présidents.
C'est pour ça, la presse locale, faut se méfier. Enfin,
la presse locale, c'est surtout quand bon, c'est pas un énorme marché, mais il y a des trucs locaux à Indiana. Mais souvent, en fait, c'est dans les équipes de petits marchés, le journal local, il peut vraiment faire la pluie et le beau temps en termes de rumeurs et tout, hein, le beat writer et tout ça. Le beat writer local, pas le beat writer d'une grosse entité comme ESPN ou The Athletic. Donc c'est toujours assez compliqué. Mais ce que je vois, c'est que moi, en fait, j'ai pas besoin de voir tout ça pour comprendre de lire tout ça pour comprendre que ça se passe mal. Tu regardes le banc. Tu regardes le banc dans les temps morts. Tu regardes l'attitude des joueurs quand ils reviennent, quand ils sortent, l'attitude des joueurs avant les matchs. Alors, malheureusement, on peut pas trop, mais, les interviews, parce que c'est assez limité avec le Covid et tout ça, et je vois pas une équipe qui vit très bien, tout simplement.
La défense. Voilà. Si on veut la défense, ouais.
Ouais, la défense, t'as raison, c'est un truc de courage, d'unité d'une équipe, souvent. T'as des équipes qui ont un personnel horrible, mais elles défendent pas terriblement. Donc, pas affreusement. Et là, en fait, tu vois ça. Tu l'as dit, ça s'est pas mal passé avec Pitadze, il y avait eu des trucs, hein, plus tôt dans l'année déjà. Moi, je me rappelle d'une confrontation contre Boston où ça s'engueule un peu hein, sur le côté. C'était tout début de saison, ça allait quand ça allait bien déjà. Donc quand ça allait mieux. Donc alors en plus t'as ça qui sort. En plus, comme vous l'avez dit, il y en a c'est des récidivistes parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait avec Macmillan. Donc ouais, je vois ça. C'est pas une très très bonne osmose là. T'as l'impression.
Parce que qu'est-ce qui dit que si tu changes de coach, il va pas se passer exactement la même chose le jeu? Parce que ça va faire trois coaching staff en 3 ans. Avec les mêmes joueurs.
Et tu prendrais quoi comme type de coach? Parce que si ce coach-là, il va pas, tu vas plus te rapprocher sur un coach type Macmillan, alors pas un mec qui va élever le plancher, mais c'est parce que les mecs
voulaient. Un mec à la Jorger, quoi.
Ouais, voilà.
J'ai vraiment l'impression que du côté des joueurs, c'est pour ça que je remercie Tom d'avoir signalé mon argument sur Tyronn Lue. J'ai l'impression qu'ils veulent tous, ils veulent ces proximités anciens joueurs. J'ai l'impression que ça paye. Et bizarrement, je suis tombé sur un article d'ESPN il y a quelques semaines, depuis, la merger, donc NBA, ABA, c'est le plus petit total d'anciens joueurs coach à l'heure actuelle. Il y en a très très peu. Et bizarrement, Brooklyn, Steve Nash, Philadelphie, Doc Rivers, Clippers, et pour les autres équipes, ce sont que des anciens joueurs, mais des coachs qui ont déjà prouvé. Vogel a déjà un bagage, etc.
Carlisle, c'est un joueur.
Exactement. Et peut-être que là où je peux un petit peu excuser le coach du côté d'Indiana, c'est que contrairement à, je sais pas, Degno du côté d'OKC, lui, on lui a donné un effectif où il doit aller en playoff. Il a des objectifs déjà. Là où Degno, on est dans
il
la...
Il doit faire passer un cap même. Il doit
faire passer un cap. Enfin, c'était même l'objectif dans le fameux article de Bleacher Report qui n'est pas parfait. On explique qu'il voulait une trajectoire à la Toronto. Enfin, on veut déjà une équipe qui va en playoff. On veut lui faire passer un cap avec le même groupe. Enfin, c'est demander beaucoup à un jeune coach qui est dans sa première expérience. Enfin, je trouve qu'à ce niveau-là, on peut l'excuser. Alors, on va pas l'excuser sur le fait que visiblement, d'après ce qui sort, le coach a une attitude différente face aux médias et dans les vestiaires, que visiblement, il n'accorde aucun crédit à ses assistants coach, ce qui explique le départ d'un assistant coach historique au mois de février. Enfin, ça fait quand même beaucoup de choses. Mais je voulais juste mettre en avant ça. Mais moi, je pense que la solution, tu disais, Alan, que faire? Ils se sont plaints de McMillan qui était peut-être un peu trop général défense. Ils se sont plaints du coach actuel Borgdon parce que j'ai failli l'appeler Brandon. Bref, ils se sont plaints du coach actuel parce que dans la façon de gérer les joueurs, c'est pas bon. Ils veulent un coach offensif, entre guillemets, pote avec eux. Enfin, ils veulent Tyronn Lue, en fait. C'est pour ça que Tyronn Lue, il a plein d'offres.
C'est ça. Ouais, c'est... Mais après, tu vois, tu te retrouves aussi dans une situation où les joueurs que tu as, au final, certes, enfin, on en parle souvent, Indiana, c'est une équipe de financiers. C'est-à-dire que c'est une équipe où qui est avant tout gérée pour atteindre un certain nombre du cap en étant un minimum compétitif. C'est faire le mieux en payant le moins, en fait, Indiana. C'est ça leur but. Au final, est-ce que c'est pas du coup la destinée à un moment de ces équipes-là où tu as des projets qui se développent autour d'eux qui font que eux ils descendent progressivement dans la hiérarchie? Parce que ce qui se passe avec Indiana, c'est que Atlanta, ils sont meilleurs que cette saison, et New York est aussi meilleur que cette saison.
Charlotte.
Et même Charlotte. Et en fait, si tu enlèves ces trois équipes-là, Indiana, ils sont à leur place habituelle. Mmh.
Mmh. Je pense aussi...
Avec Brooklyn aussi, qu'à step up.
Brooklyn, là, avec des moyens tout autres. On voulait aussi profiter de cet épisode pour parler, et justement, Tom, tu l'as introduit, de la stratégie des Pacers. C'est vrai qu'on est un peu à la marge dans ce qui est de la NBA, qui devient de plus en plus binaire, où les équipes vont trader. Moi, j'avais une formule par rapport à ça. Je trouve que les Pacers... Tom, tu parlais de financiers. Selon moi, c'est une des rares franchises qui ne joue pas à la bourse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'actuellement, NBA, souvent, on échange du concret contre du spéculatif. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va échanger un bon joueur. C'est franchement, chers auditeurs, regardez tous les trades en ce moment. Maintenant, dans la NBA, on échange quoi? On va échanger un titulaire, un mec qui sait jouer au basket, contre du spéculatif. Ce que j'appelle spéculatif, c'est des choix de draft. C'est même des jeunes joueurs qui ont très peu prouvé. Mmh. Et en fait, Indiana, quand on analyse leurs échanges, ils ne sont jamais dans le spéculatif. L'échange avec Victor Oladipo, ils auraient pu en sortir avec un choix de draft. Non, ils veulent Caris LeVert, qui est certes jeune, mais qui a quand même déjà prouvé en NBA. L'échange de Paul George...
Un jeune...
Ouais, jeune entre guillemets. Les chances de Paul George, il récupère Victor Oladipo qui avait déjà plusieurs saisons de titulaire à Orlando et du côté d'OKC. Ils veulent beaucoup de concret et le problème de ça, c'est que bah en réalité ça donne pas de marge de manœuvre parce que tu veux trouver du potentiel ou quand tu veux des joueurs qui ont déjà prouvé, bah t'as une solution et ça se retrouve un peu du côté d'Indiana, c'est prendre des joueurs qui ont déjà des historiques de blessures avec des LeVert etc. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Je suis obligé de donner la parole à Alan, ponte de la draft, scout international. T'en penses quoi de la stratégie d'Indiana qui, moi, j'ai envie d'intituler ce podcast, je sais pas si ça sera la fin, mais traumatisé par une pièce de théâtre du lycée, j'ai envie d'appeler ça l'importance d'être constant. C'est une pièce d'Oscar Wilde et pour moi, elle m'a toujours fait penser aux Pacers.
On avait déjà parlé de ça. Je me souviens, c'était doit être l'été 2017. On parle de la stratégie de Pritchard, donc le GM, de Larry Bird et du coach. On avait réfléchi sur les embauches de McMillan, je crois, si je me trompe pas. Mmh. Et toi, Ben et Tom, vous aviez dit que si on décryptait les déclarations de ce qui se disait, ça les intéressait pas de tanker, tout simplement. Non. Genre, tout simplement. Et tu regardes ça le nombre de fois où Indiana a pique dans le top 5, c'est hyper rare. Et en plus, ils ont cette historique qu'ils peuvent vendre aux fans, parce qu'il faut vendre des trucs aux fans, de pouvoir trouver un Paul George, un Danny Granger, plus tard dans la draft. Ça, tu peux le vendre parce que les fans sur Twitter, ils vont te le dire. Hein, non, mais on n'a pas besoin de tanker. Regarde, on peut trouver. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est toujours plus simple de trouver un Paul George dans le top 5 qu'en dehors de la ou qu'en fin ou dehors de la loterie. Le truc, c'est que moi, je pense qu'ils ont cette stratégie-là. C'est un marché, c'est un état de basket, mais où le basket universitaire est super fort, et eux avoir leur bonne équipe de basket professionnelle qui va en playoff ou se bat pour les playoffs à cette comme OKC, à cette mentalité de besogneux travailleur, ça plaît aux fans. Ça plaît aux fans. Après, si tu arrives à trouver ce franchise player qu'ils avaient avec Reggie Miller et ensuite avec Paul George pour aller peut-être aller en finale de conf, ce qu'ils ont fait, ils ont jamais vraiment réussi à aller en finale NBA, ils y ont été au tout début du siècle. Et là, c'est vraiment l'explosion, c'est top, tu vois. Mais c'est pas l'objectif, je pense. L'objectif, c'est d'être bon, c'est d'être toujours là, parce qu'il y a peut-être une peur du vide dans cette équipe-là qui est présente, tout simplement. Moi, je l'ai, tu vois, j'ai jamais vu Indiana dans le top 5 de la draft, de mémoire. Enfin, je les ai pas vus.
D'être bon sans être déficitaire.
Il y a ça aussi, il y a l'aspect financier que Tom mentionne. Après, là, c'est les liens avec le proprio. Le proprio, il veut pas payer la taxe, il veut pas se mettre dans le rouge, quoi.
Tom, je te laisse ouais. Le champ. Après, on peut dire vis-à-vis, juste un petit détail, c'est vrai que les fans vont souvent vendre cet argument-là. Sur l'aspect, après, ils ont pas tort sur l'historique. C'est-à-dire que ouais. Danny Granger, Miles Turner, Paul George, techniquement, ils ont drafté Kawhi Leonard. Alors, ils l'ont envoyé direct, ouais. Mais ils ont drafté Kawhi. Ouais. Il y a quand même, enfin, entre 10 et 20, il y a très peu d'équipes qui ont autant de réussite.
C'est vrai. Surtout pour ce niveau de joueur-là, quoi. Surtout sur le niveau de le joueur qu'ils arrivent à récupérer. Et tu vois, on en parlait lors du transfert en fait de Oladipo, puisqu'ils avaient peur de vouloir le payer, donc ils ont fait le choix de prendre quelqu'un qui était déjà sous contrat longtemps pour pouvoir maîtriser les coûts, en fait les coûts du roster sur plusieurs années, puisque au final il se rapprochait très proche déjà de la taxe s'il fallait proposer un contrat s'il fallait proposer un contrat à Oladipo, ils n'étaient pas sûrs du montant en fait qu'ils auraient pu, enfin qu'ils voulaient lui donner. Donc du coup, ils ont fait plutôt quelque chose de, enfin, un montage plutôt financier. Et là, ils se retrouvent avec la situation actuelle. Pour l'an prochain, ils ont déjà 119 millions de dollars garantis sur 12 joueurs. Ils ont quelques free agents importants comme McConnell, comme McDermott, ou voir Edmund Sumner qui a une team option, sachant que le cap devrait être entre 112 millions et 120 millions, donc on attend de voir ce qui va se passer à la fin de la saison, puisque ils avaient parlé d'une augmentation entre 3 et 10% du salary cap. Donc en fait, c'est une équipe qui financièrement est un petit peu bloquée là où elle est si elle fait pas de gros moves, quoi, puisque ils pourront peut-être re-signer les joueurs qu'ils ont, utiliser la mid-level, mais tu es Indiana, avec ta mid-level, tu n'auras pas ce que, par exemple, les Lakers ou Brooklyn peuvent avoir avec la mid-level. Tu as aussi d'autres équipes qui sont plus avancées dans leur processus, qui vont aller cibler des joueurs et auront les moyens de cibler des joueurs, puisqu'il y a énormément de cap space disponible autour de la ligue. Puis, et vu que les grosses stars, entre guillemets, du marché ont toutes plus ou moins signé des extensions à part Kawhi Leonard, ce qu'ils ne pouvaient pas. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, on est reparti pour la même chose l'an prochain, quoi.
De toute façon, je vais reprendre ma... Et d'ailleurs, petite... voilà, on fait nos recherches pendant le podcast. 1988, la dernière fois qu'Indiana choisit dans le top 5. 1988.
Ah ouais, incroyable. 1988, on n'était pas nés.
On n'était pas nés. Personne dans cette émission n'était... On était même très loin. Et en fait, le problème, Tom, c'est que... On l'a dit la semaine dernière avec Madiane et Adrien, il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le très court terme à l'heure actuelle, qui sont sur 1 ou 2 ans. Ces équipes-là, quand elles veulent acquérir un joueur, elles vont offrir le fameux spéculatif dont je parlais. Elles vont offrir des choix de draft en 2025 et en échange, parce qu'elles vont pas se défausser d'un bon joueur vu qu'elles sont dans une logique de surarmement. Le problème de la stratégie d'Indiana, c'est que même si voilà, ils sont bloqués financièrement, ils vont toujours vouloir peut-être redemander un joueur ou avoir une certitude. Et parmi les 8 équipes ou 9 équipes qui sont dans du court terme, elles vont pas leur offrir de certitude en réalité. Je me rappelle d'une période où par rapport vis-à-vis de Miles Turner, qui est plus ou moins dans toutes les rumeurs de trade depuis sa troisième saison.
Mais non, ouais.
on parlait de Jaylen Brown contre un Miles Turner. C'est une rumeur qui est sortie plus d'une fois. Et en fait, quand tu te mets à la place de Danny Ainge, tu peux jamais accepter ça parce que ça a trop de valeur, c'est un jeune ailier et si t'es dans une logique d'acquérir un joueur comme Miles Turner, tu veux pas en échange renvoyer un jeune joueur en fait. Donc c'est pour ça que la position d'Indiana, c'est pour ça que je pense qu'ils vont avoir du mal à trouver des trades s'ils doivent bouger cet été. C'est parce que qui viendra chercher un joueur d'Indiana? Par exemple, vas-y Tom.
Ouais, je pense que Indiana, il y a pas mal de joueurs qui pourraient intéresser du monde. Hein. Je pense que
ils vont intéresser, mais en fait, c'est quand tu te mets à la place d'Indiana, est-ce que ces équipes seront prêtes à lâcher une certitude?
Ils auront des joueurs.
Ça dépend, par exemple, tu peux te dire que, par exemple, des équipes comme Philly, ça se passe pas bien avec Ben Simmons, ils vont voir du côté de Brogdon. Tu peux te dire que, par exemple.
Mais tu lâches pas Simmons pour Brogdon, Tom.
Non, je te parle pas de Simmons. Mais enfin, ils peuvent trouver un paquet, tu vois, ils peuvent, je sais pas, cette Curie ou quelque chose comme ça, ils vont trouver quelque chose. Tu vois, Indiana, cette Curie, ça leur irait bien. Il a encore quelques années sous contrat, ça leur irait bien, par exemple. Quelque chose, tu peux trouver un paquet autour de ça. T'as par exemple des équipes qui vont venir voir pour Miles Turner, typiquement les Pelicans viendront voir pour Miles Turner. Tu vois, Steven Adams, il a un contrat plutôt long, Bledsoe, il a un contrat plutôt long. Pourront récupérer des joueurs. Enfin, tu vois. Enfin, je pense que il y a Indiana en fait. Si t'as une équipe qui essaie de se renforcer, c'est eux qui vont appeler parce qu'ils ont les joueurs pour leur permettre de renforcer. C'est la théorie du costume. Comme tu dis, t'as trop de joueurs.
C'est comme Orlando. C'était Orlando, sauf qu'ils n'attendent pas la même chose qu'Orlando a été prêt à accepter.
Et Orlando
Ils ont pris que du spéculatif là sur RG Hampton, des pics. Il y a eu quoi d'autre? Bah, du spéculatif.
Wendell Carter,
RG Hampton, des pics, ça n'intéresse pas Indiana, je pense. Hein. Je pense, hein, personnellement.
Et Orlando a quand même fait des paris, tu vois, en récupérant Fultz. Ils ont récupéré quand même Fultz. Donc, il y a des petits paris.
Ouais.
Mais si on regarde l'historique, parce que l'objectif, c'était un peu aussi de faire l'historique d'Indiana, il n'y a pas de paris à la Markel Fultz à Indiana. En fait, ils prennent que des paris où il y a un minimum retour sur investissement, c'est une certitude. Ouais. C'est-à-dire que Caris LeVert, même s'il explose pas, tu sais que ça peut être un super sixième homme qui fera des choses et qui sera capable de scorer. Là où, Markel Fultz, quand Orlando va le chercher, c'est vraiment, c'est très compliqué d'imaginer qu'il pourra même devenir un joueur titulaire dans quelques années.
C'est ça, il voit l'opportunité d'échanger un joueur, la deadline pour Philly qui veut se renforcer, et ils attendent pas en échange un joueur qui peut les aider tout de suite. Alors qu'ils sont dans la même posture qu'Indiana, ils jouent les playoffs, Orlando. Ils sont intéressés par Fultz. C'est vrai que Indiana, jamais ils sont intéressés par ça. Ou quand ils relancent, c'est plutôt un joueur qui a des blessés, qui a été cut par plusieurs équipes et ils le font signer. Mais là, c'est pas dans un deal avec des échanges d'assets, quoi. C'est différent.
Mais vis-à-vis de cette stratégie, c'est quoi? Avant qu'on parle peut-être sur le futur, allez, si jamais on bouge du côté d'Indiana, qui on devra peut-être garder? Vous pensez quoi de cette stratégie? Moi, j'avoue que dans une NBA où tout le monde, justement, dans le bas et dans le spéculatif, j'apprécie, cette posture de se dire, bon, bah, au moins, nous, on sera toujours bons. Parce que des équipes, c'est ce que je répète dans tous les podcasts maintenant, mais, c'est la bourse. Ok, si le spéculatif en NBA, c'est la bourse, si 8 personnes parient sur la bourse, il peut pas avoir 8 gagnants. Hein. On comptera les morts, entre guillemets, dans 4-5 ans, quand certaines équipes auront tout parié sur la draft et n'auront pas le scouting départemental, etc. pour faire tout ça. Moi, j'avoue qu'Indiana, au moins... Alors, on les critique souvent, mais... Bah, alors oui, pour leurs supporters, je sais que la blague, c'est de se dire, bon, bah, tous les ans, on va se faire sortir au premier tour. Mais au moins, dans le paysage NBA, je pense que quand tu es un observateur extérieur, que tu n'es pas pour Indiana, bah, au moins, c'est une équipe qui zigue quand tout le monde zague et c'est plutôt, enfin, c'est appréciable.
Complètement.
Après, c'est, tant que ça correspond au propriétaire, tu vois, c'est pas un problème, en fait. Puisque, enfin, le propriétaire, il va pas changer les moyens qu'il investit dans l'équipe. Son fusible, c'est changer les general managers, changer le coach. C'est ce qu'il fait, en fait. Il va pas payer la luxury tax, il va pas, voilà, ils vont pas faire tout ça. Donc, c'est une équipe qui est, entre guillemets, condamnée, si elle veut sortir de sa zone, à drafter Paul George, quoi. À drafter une superstar très loin. Voilà, à drafter une superstar très loin dans la draft. C'est comme ça qu'ils auront leur salut, quoi, de pouvoir avoir un home run, tu vois,
Et tu vois, même à la draft, dernièrement, ils sont entre 15 et 22, quoi, à peu près tous les ans. Ils vont jamais sur le méga potentiel. ils prennent des joueurs qui pensent pourront être de bons, de solides soldats. Aaron Holiday, il y a eu TJ Leaf aussi.
Switch feuilles.
Il y a peut-être un, je sais pas, un recadrage vis-à-vis de ça, parce que quand par exemple ils prennent Miles Turner à la draft, c'est la période où je suivais encore la draft, donc je sais ce que je dis, c'est un potentiel quand même Miles Turner.
Bitadze, pareil, c'est un potentiel venu d'Europe, c'est un des plus jeunes joueurs de la draft à l'époque.
Donc il y a peut-être ce réalignement là. Et Tom, je t'entendais parler, ils sont contraints de drafter Paul George, je dirais même plus, ils doivent drafter Paul George et deux autres titulaires, parce que quand on prend la dernière bonne équipe d'Indiana, en réalité il y a Danny Grant, il y a Paul George, il y a Roy Hibbert, ça fait quand même beaucoup d'années.
David West, George Hill, une vraie équipe, hein. Stephenson.
Il y a beaucoup, enfin là, dans le groupe qui vient d'être cité, il y a quand même plusieurs joueurs qui viennent d'Indiana sans avoir été choisis dans le top 10, donc ça fait beaucoup d'années de suite où tu dois réussir. Après, juste avant qu'on finisse sur, qu'on aille conclure ce podcast, je reste persuadé que c'est une équipe. Je mettrai cette équipe dans le top 5 de celles qui ont le plus payé l'aspect Covid dans la salle vide. Parce que eux, leur salle est quand même censée être un endroit qui est toujours rempli, où il y a un vrai impact. Et cette année, ils ont plus trop ça. Je pense qu'on peut citer ça.
C'est clair.
Ouais. Et puis les blessures en quinconce, comme vous l'avez mentionné, en poste, les blessures en quinconce, c'est pas genre ils ont eu des blessés, tout le monde était blessé à un moment et après tout le monde est revenu. C'est qu'ils ont eu des blessés à chaque fois. Lui, il manque 10 matchs. Il revient, t'as l'autre mec qui manque 10 matchs. L'autre mec revient, t'as un autre mec qui manque 10 matchs. Et t'avais TJ Warren en filigrane qui était absent. Et Caris LeVert était absent en filigrane. Donc, ça fait énormément de jeux de chaises musicales. Et c'est dur, en fait, pour l'implémentation, parce qu'il n'y a pas forcément d'entraînement dans la période Covid. C'est un nouveau coach. Voilà, il y a énormément de choses pour cette équipe-là. Et puis, on peut regretter que... C'est dommage, en fait, que... l'une des rares fois où ils font un pari, que ça se passe pas bien, quoi, et au final, bah, tu vois, peut-être que ça leur servira de jurisprudence, par exemple, quand ils iront prendre, je sais pas, un coach, tu vois, un mec à la Jurger, ils vont dire, ouais, on a essayé l'approche plafond, ça a pas marché, bon, on retourne sur le coach plancher, puis on perdra au premier tour, on fera les playoffs, on perdra au premier tour, tu vois, c'est triste.
Ah bah, c'est triste, mais après, si ça respecte ton approche globale, ça peut se comprendre. Mais du coup, pour un peu conclure tout ça, les gars, on a un peu parlé du coach. Du coup, selon vous, je l'ai demandé à Tom, Alan, est-ce que pour toi, il est en danger, le coach? Parce que si ne serait-ce que 25% de ce qui est sorti est vrai, j'ai du mal à imaginer comment il peut rester quand même.
Ça sera lui ou ses deux stars. C'est toujours comme ça, malheureusement. Je le vois pas être viré personnellement. Moi, je le vois pas. Je le vois être le coach d'Indiana l'année prochaine.
C'est vrai.
Il y aura l'aspect Covid, l'aspect manque de continuité, tous ces types d'arguments qui peuvent être utilisés et qui est vérifiable, hein, pour défendre un coach. Le problème, c'est que s'il reste, je vois un peu ça. Ah oui, chacun peut mettre de l'eau dans son vin. On connaît tout l'aspect positif qu'on peut vendre à une intersaison avant une saison, hein. Mais vu les comportements, les déclarations de Brogdon, c'est un récidiviste, je le dis. Brogdon est un récidiviste. Ouais. Et c'est toujours quand c'est lui qui a un peu les clés du camion qui parle beaucoup. J'avais aucun souci sur Malcolm Brogdon à Milwaukee. Hein. Et il n'y en aura pas si jamais je pense qu'il va, Tom parlait de Philly, d'une équipe qui pourrait être intéressée par son type de profil en tant que troisième meilleur joueur potentiel d'une très bonne équipe. Il n'y aura plus ces problèmes, je pense. Mais moi, je pense qu'il sera le coach l'année prochaine et que soit Brogdon, soit Sabonis ne sera plus dans l'effectif l'année prochaine.
Ah ouais. Juste sur le petite parenthèse Brogdon, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. J'en parlais. Je pense que Brogdon aura jamais cette étiquette-là parce que on sait que c'est un joueur qui investit en dehors du terrain, dans les causes humanitaires. Il est investi, très investi en Afrique. C'est un joueur, voilà, son surnom de President. Bref, il a tout l'emballage pour ne jamais être considéré comme un joueur à problème. Alors qu'en réalité, oui, c'est un récidiviste. Il a eu le même problème avec McMillan. Il était cité. Dans les deux cas, il a été cité. Alors, on peut comprendre après que le joueur est...
Ah oui, on peut comprendre, mais juste, il a déjà été dedans, quoi. C'est juste ça.
Il a déjà été dedans et il est peut-être dans la seule franchise où Indiana, on peut... c'est parmi ces franchises où tu peux pas te risquer de froisser un joueur très fort parce que tu sais que t'as tellement peu de pouvoir d'attraction, tu peux pas te mettre à dos les joueurs parce qu'autrement tu risques d'avoir un vrai problème. Surtout que, ils ont pas ramené la nouvelle version de Phil Jackson. C'est un coach, on l'a déjà dit, c'est un fusible. Tom l'a dit pendant l'émission, ça peut sauter. Tom, donc tu penses, t'es d'accord avec Alan, le coach sera là la saison prochaine?
Oui, moi je pense qu'il sera là la saison prochaine. Hein. Je pense qu'il, parce que déjà un an, c'est, enfin, tu viens d'embaucher le mec. Un an, enfin, imagine par exemple comment ça se passe avec les agents, sachant que faut pas oublier que l'an dernier, Indiana, il prolonge Matt Milan juste avant de le virer. Donc là, ça tu viens. Mais avec les, alors je veux dire qu'il y a que 30 coachs, 30 postes de coach, de head coach en NBA, mais en termes de look. Enfin, c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment, si tu le vires maintenant, tu lui as pas donné le temps de mettre en place ce qu'il voulait mettre en place, même si, tu vois les problématiques, même si, il a aussi des torts, hein, il a aussi des torts, Björgren, hein, c'est pas un martyr. Voilà, c'est pas la victime, c'est pas un martyr, mais les choses qui se passent humainement, t'as l'impression que c'est plus facilement modifiable, entre guillemets, que ce qui se passe à, en termes de comportement de joueur. Et tu vois, enfin, quand ils ont choisi le coach, à l'époque, ils hésitaient avec des profils comme, il y avait D'Antoni, il y avait, à l'époque, il y avait, le coach de Minnesota maintenant. Il y avait Becky Hammon qui avait été cité. Finch. Il y avait, Finch aussi qui était cité. Et au final, ils ont choisi ce gars-là pour une question d'ardoise. Pour des questions d'ardoise. Donc, faut voir, mais, enfin. Moi, je pense que ce sera le, je pense qu'ils vont lui donner une deuxième année, ou voir, ils vont voir sur la moitié de la saison avec tout l'effectif. Et si ça marche pas, là, ils le viront, mais je pense pas qu'il sera viré à l'intersaison. Ce sera un trop mauvais look.
Je pense que j'ai vraiment été trop traumatisé par ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, parce que je peux comprendre, après, vis-à-vis de McMillan, par rapport aux autres coachs, ils peuvent se dire, bon, alors certes, ils l'ont écarté, mais ils lui ont quand même offert la prolongation avant. Donc si à mon client on lui offre la prolongation et ensuite on le vire, ça passe. Mais je sais pas si je répète, mais si ce qu'on a lu c'est en partie vrai, pour moi ça effraierait pas d'autres coachs, parce que tu te dis que c'est juste un problème de management, en fait, de management de joueurs. Et c'est vrai que la situation est vraiment très difficile, mais autant sur des problèmes de résultats sportifs cette année, je peux les excuser dans le contexte d'Indiana, mais les problèmes humains, ils sont trop compliqués. Après, à voir où ça va peser, parce que, comme l'a dit Alan, soit c'est, ou je sais plus qui, soit c'est les joueurs, soit c'est le coach. Donc, selon vous, des joueurs vont partir cet été?
Moi, oui.
Moi, oui. Pareil.
Et ça irait dans ça, si le front office suit son optique du on veut plus être l'équipe plancher avec McMillan et on veut, et ben ça suivrait ça, parce que ça voudrait dire on arrête de mettre tous les meilleurs joueurs sur le terrain et on s'en fiche un peu du fit et on fait jouer tout le monde et on essaye peut-être de se séparer d'un des quatre meilleurs joueurs. Il y a un quatuor, Sabonis, Levert, Brogdon, Turner. On essaye peut-être de se séparer d'un de ces profils là pour peut-être augmenter avec deux autres joueurs qu'on pourrait récupérer et qui pourraient, entre guillemets, mieux s'incorporer avec le trio. Ça pourrait être vu là-dedans.
Comme ils ont fait pour Paul George.
Suite. Ça pourrait peut-être être la suite avec Paul George, encore en moins instantané et en moins obligé de le faire, parce que Paul George te dit qu'il veut se barrer. Là, personne t'a dit qu'il voulait se barrer pour l'instant. Donc, à voir.
En plus, en comptant, il y a un quatuor. Pour moi, c'est presque un quintet, parce qu'il y a TJ Warren aussi.
Enfin, on peut... TJ Warren, il lampe.
TJ Warren, en fait, il lui reste un an de contrat, tandis que les autres, il lui reste 2 ans de contrat à tous. Ouais. Et il y en a même un, il lui reste 3 ans de contrat, je crois que c'est Brogdon, ou Sabonis.
Sabonis.
Après, à noter que Warren, dans l'article de Bleacher Report, ça avait été dit qu'il avait demandé son transfert, ça a été contredit, et c'est même l'inverse. On a même affirmé qu'il voulait une prolongation, parce que selon lui, il était the guy à Indiana. Est-ce que c'est pas ça? J'ouvre une parenthèse, mais on va vite la refermer. Est-ce que c'est pas ça le problème d'Indiana? Tout le monde pense être the guy.
Bah c'est-à-dire oui, parce que tout le monde a été un peu un moment. Il y a eu là TJ Warren dans la bulle, il y a eu Malcolm Brogdon sur le début de saison et un peu l'an passé. Il y a Sabonis maintenant. Sabonis est 2 All-Star. Donc t'es 2 All-Star, tu penses que t'es le meilleur joueur. Turner, c'est l'impact et l'influence défensive qu'il a. Et Caris LeVert, c'est Caris LeVert. Ouais. Il voudra les ballons en fin de match. Donc,
ouais, Tom.
Non, c'est ça, c'est totalement ce qu'il a dit. Totalement ce qu'il a dit.
Mmh. Et oui, d'ailleurs, à noter que, parce que on va finir sur une note positive après un podcast un peu négatif. En théorie, quand même, Brogdon, LeVert, Warren, Sabonis, Turner, on est à l'Est. T'es quand même censé. Oui. T'es plus que au play-in, enfin, en théorie.
Bah oui, mais faut pas qu'il se blesse. Mais faut pas qu'il se blesse. C'est ça le problème. Oui, si tout le monde est en santé, pour que chacun reste dans son rôle, parce que t'enlèves un gars de l'équation, ben, les quatre vont à chaque fois essayer de récupérer une petite partie du jeu pour pouvoir compléter ça. Et ça décale tout, en fait. Ça décale tout. C'est un peu la problématique de Chicago. Il n'y a pas de meneur, donc tout le monde est obligé un peu de prendre des responsabilités un peu à la main. Et du coup, c'est t'as pas la plénitude des mecs dans leur rôle parce qu'ils doivent à chaque fois sortir de leur costume, entre guillemets, pour enfiler celui de quelqu'un d'autre.
Et pour finir, vis-à-vis des play-in, play-off, est-ce qu'on les voit en play-off? Ils se dirigent vers le play-in, est-ce qu'on les voit en play-off? Je vous avoue que quand on regarde ce fameux premier carton contre les Kings, on a du mal à se dire que cette équipe-là peut candidater pour les play-offs. Je pense que vu les problèmes internes, vu tout, vu le niveau de jeu, Miles Turner ne devrait pas revenir.
Ah, ça c'est dur.
Il y a trop... Je les vois pas. On voit le match contre Indiana. Ils font contre Washington, ils font pas un mauvais match et pourtant ils le perdent.
Très bon match offensif et ils arrivent à le perdre.
Ouais.
Pas tout le temps des matchs avec de l'adresse comme ça.
Non, parce que défensivement ils sont pas bons. Défensivement
ils sont 140 en fait.
Mais même le match à 24 passes de Russell Westbrook, ils y assistent. Enfin c'est pas Russell Westbrook. Ok, il a une vision de jeu intéressante sur ce match-là, mais c'est des passes faciles à faire pour Russell Westbrook. Des passes qu'il fait là, c'est trop facile en fait pour eux, c'est trop facile. S'il y a un play-in, ils doivent battre Washington déjà parce que Washington est devant eux. Ils doivent battre le vainqueur d'entre guillemets de. Bah ils doivent battre Washington et du coup ils doivent battre après le vainqueur de, je sais pas, Boston, Miami ou Charlotte. Ils sont pas favoris. Hein.
Que des équipes avec des mecs qui peuvent initier de l'attaque à bon niveau et qui peuvent pas stopper quoi. Trae Young, il peut faire les passes qu'a fait Westbrook. Tatum peut faire ça du côté de Boston. Charlotte, franchement, ils peuvent prendre feu.
Surtout avec Hayward qui revient.
Avec Hayward qui revient. Et puis Miami est plus fort qu'eux sur un match, pareil, sur Miami par rapport à Indiana, quoi. Donc,
ouais. Et que des équipes qui vont pouvoir, enfin, tout le monde va pouvoir en NBA.
Leur mettre des points, quoi.
Insister sur le secteur intérieur. Ouais, leur mettre des points, insister sur le secteur intérieur. Ok. Bon, bah, les fans d'Indiana vont pas trop nous apprécier parce qu'on parle rarement de leur franchise. Et là, le tableau était assez sombre, assez noir. Mais c'est vrai que, bon, on va attendre d'assister à ce qui va se passer cet été du côté d'Indiana. Et peut-être que ça va nous surprendre et qu'il y aura des décisions qui vont peut-être aller à l'encontre de cette philosophie dont on a parlé. En tout cas, les gars, merci je vous ai fait regarder Indiana ce week-end et je sais que c'était difficile. Donc, je dois vous remercier. On vous invite, comme d'habitude, pour ceux qui sont sur YouTube, un petit commentaire en bas si vous avez quelque chose à dire vis-à-vis de ce podcast, à nous suivre sur Twitter où vous écoutez votre podcast NBA, à mettre 5 étoiles si c'est sûr. Apple Podcast, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, les playoffs approchent, et là, je le promets, du coup, on va faire un power ranking, et on va essayer de classer, alors que c'est le brouillard total, créer une hiérarchie à partir de ce qui se passe en NBA, et ça va être très très difficile. On vous souhaite donc une très bonne semaine, et à la semaine prochaine. Salut!
Salut!
Salut à tous!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.